Eh bien, chers amis, nous ouvrons nos Bibles dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, non pas pour relire tout le chapitre comme hier soir, mais simplement un court extrait du chapitre 19. Nous allons lire le verset 4, tout d'abord, et puis nous passerons un petit peu plus loin. 1 Rois, chapitre 19, verset 4, tout d'abord. Pour lui, pour Élie, quant à lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 9, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » Nous allons dans le Nouveau Testament maintenant, dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 14, Évangile selon Jean, chapitre 14, nous lisons tout d'abord les versets 15 à 18. Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, Actes chapitre 4, nous lisons les versets 32 à 37. Actes 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et un dernier texte, dans la première épître de Jean, Première épître de Jean, au chapitre 2, nous lisons les deux premiers versets. 1 Jean, chapitre 2, les deux premiers versets. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché ou s'il a commis un péché à un moment particulier, Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Seigneur notre Dieu, nous éprouvons le besoin de te demander d'ouvrir toi-même ta parole. Nous voulons ensemble simplement nous asseoir à tes pieds. Nous te demandons de faire en sorte que cette soirée ne soit pas une démonstration de sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit, de puissance. Nous te demandons d'accepter ce soir d'agir dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Éclaire ta parole pour que nous la comprenions non seulement par l'intelligence, mais aussi par le cœur, par la volonté, de manière à ce que nous ayons soif de vivre cette parole, de l'incarner, de la concrétiser dans notre quotidien. Seigneur, nous avons soif de toi, nous sommes à ton écoute. Nous te bénissons de ce qu'il te plaise de te servir des hommes pour communiquer. C'est une grâce, Seigneur. Je te demande d'oindre mes lèvres, de toucher mon propre cœur, afin que je ne sois pas un écran, mais simplement ton porte-parole. Oh, bénis-nous parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos situations à chacun, nos combats, nos découragements, nos besoins. Sois loué parce que tu as une réponse pour nous. En Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc, hier soir, abordé une sixième cause de découragement dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Et nous l'avons intitulé très simplement « Nos frères ». Nos frères. Nous avons lu volontairement ce soir à nouveau un court extrait de ce chapitre 19 pour remarquer combien Élie insiste, au moment où il vide son sac en quelque sorte, en présence de l'Éternel, combien il insiste sur le fait que s'il est dans cet état, la raison est à chercher dans l'infidélité du peuple auquel il appartient. L'apostasie, la prostitution, l'adultère, du royaume du Nord, pour ne parler que de lui. Et nous avons souligné qu'effectivement, l'état non seulement de ce monde dans lequel nous vivons et qui, reconnaissons-le, devient un monde de plus en plus difficile à vivre, mais aussi l'état de l'Église, de Jésus-Christ, en Europe occidentale et dans notre pays de France, surtout peut-être par comparaison à d'autres pays du monde actuellement, l'état de l'Église peut être pour nous cause de découragement. Et pour rétrécir notre champ de vision, tout simplement même l'état et l'attitude de membres de notre communauté locale ou d'églises environnantes peut nous amener à tenir raisonnement semblable dans la présence de Dieu. Nous avions fait hier soir deux ou trois remarques préalables La première, pour souligner que nous n'avions pas le droit de nous servir de tels alibis pour justifier de nos découragements. Tout simplement parce que il faut reconnaître, avions-nous dit, que le Saint-Esprit se sert, entre autres, de nos frères et sœurs pour crucifier notre vieille nature qui, certes, juridiquement, est déjà clouée au bois dans la mort de Christ, mais qui doit expérimenter dans le quotidien cette réalité juridique. Nous avons donc besoin autour de nous, comme nous le disions hier soir, de frères marteaux et de sœurs clous pour pouvoir vivre notre vie de résurrection. C'était là notre première remarque. La seconde était pour dire que nous devrions inverser notre raisonnement, c'est-à-dire nous souvenir que nous sommes nous aussi, pour les autres, des causes de découragement. Qui d'entre nous, par ses attitudes et par ses propos, n'a pas été pour un de ses frères ou une de ses sœurs une cause et de tentation au découragement et finalement même de chute dans le découragement? Et puis à partir de là, nous avions fait brosser quelques portraits, style La Bruyère, de manière, en quelque sorte, de décourager les autres. Nous avons parlé de l'esprit de critique, qui se distingue de l'esprit critique. Nous sommes appelés à exercer un esprit critique, à jauger, et non un esprit de critique, qui consiste à juger. Nous avions ensuite développé le problème de l'esprit autoritaire. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Nous avions évoqué l'esprit tatillon, qui ne sait pas faire la différence entre l'essentiel et le second. L'esprit légaliste, qui tue, qui étouffe, qui pèse, qui culpabilise à outrance. Ou son contraire, l'esprit démissionnaire qui fuit devant ses responsabilités. Nous avions passé pas mal de temps à évoquer l'esprit insatisfait en permanence qui cultive le mécontentement. Et enfin, l'esprit incrédule avec la mauvaise foi de l'incrédulité. Tout cela nous avait bien occupé, et nous bénissons Dieu d'avoir bien voulu travailler dans nos cœurs de cette manière. Et puis nous avions dit qu'à partir de ce soir, nous serions positifs. Nous serions positifs et nous allons voir ensemble, examiner quelques aspects de la vie d'un personnage clé du Nouveau Testament, même s'il est relativement peu question de lui. Et pour introduire ce personnage, j'aimerais tout d'abord souligner le trait commun, le point commun, entre les trois derniers textes que nous avons lus ensemble. Jean 14, versets 15 à 18. Acte 4, versets 32 à 37, et 1 Jean 2, versets 1 et 2. Nous aurions pu y ajouter un autre texte encore, mais dans lequel ce point commun ne figure pas, mais Je brûle d'envie de vous le lire au passage parce qu'il a son importance dans ce que nous allons partager. C'est le texte de Romains 15, versets 5 à 7, qui dit ceci, que le Dieu de la persévérance et de la consolation, en réalité, il est là, notre mot, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Faites-vous mutuellement bon accueil. Et il y a un lien évident entre le verset 7 et le verset 5, ce Dieu de la persévérance et de la consolation. Quels sont donc en réalité les... ou quel est le point commun à ces quatre textes apparemment si différents les uns des autres? Il y a tout d'abord dans Jean 14 une promesse extraordinaire qui nous fait du bien. Nous avons sous les yeux une sorte de testament spirituel du Seigneur Jésus. Il vivait ses derniers moments d'intimité avec ses disciples au milieu des hommes. Et vous savez que les derniers moments d'intimité entre quelqu'un qui va partir et ceux qui restent sont des moments de forte intensité où les mots prononcés ont une grande valeur et une grande portée. Encore plus quand il s'agit de la parole de Jésus lui-même. Il nous est dit donc que dans cette situation de désarroi, de découragement, d'incompréhension de ce qui était en train de leur arriver aux disciples, Jésus éprouve le besoin de les consoler. Et il les console de manière extraordinaire puisqu'il leur promet l'envoi d'un autre consolateur. Je souligne au passage que le texte grec souligne, par l'utilisation d'un petit mot en grec, traduit par « autre » en français, qu'il s'agit d'un autre consolateur de la même nature que celui qui parle. Il y a en effet deux possibilités en grec, de mots possibles à utiliser dans ce texte. Et ici, c'est un petit mot bien clair qui signifie un autre de la même nature, de la même essence. Ce qui souligne au passage la divinité absolue du Saint-Esprit. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure, c'est intéressant aussi, éternellement avec vous. Éternellement. Ce qui sous-entend, disons-le aussi au passage, un salut éternel qui ne peut aucunement être remis en question, qui ne peut se perdre, le Saint-Esprit demeurant éternellement avec et en celui qu'il a pénétré et vivifié au jour de la nouvelle naissance. C'est un texte de forte portée doctrinale en quelques mots. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est le titre que Jésus donne au Saint-Esprit, puisqu'il l'appelle, et ceci à plusieurs reprises dans ses chapitres 14, 15, 16, il l'appelle le Consolateur. Lorsqu'on lit le second texte dans la première épître de Jean au chapitre 2 et dans les deux premiers versets, Jésus, nous est-il dit, dans le ciel, dans la présence du Père, plaide, en quelque sorte, en notre faveur, son sang plaide pour nous. Son sang plaide en permanence pour nous. Devant la face du Père. Et ici, nous avons le terme avocat qui définit le rôle de Jésus-Christ dans la présence du Père. Il se trouve que le mot grec utilisé dans les deux textes est le même. Consolateur, avocat, c'est ce terme qui parfois même n'a pas été traduit, a été gardé, tout comme le mot église est un mot grec, n'est-ce pas ? Le terme paraclète ou paraclé n'a pas été traduit. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un terme d'une immense richesse. Vous avez tout d'abord un préfixe, para, qui signifie à côté de, et puis kaléo, klète, qui vient, un participe, qui vient du verbe kaléo, kalein, qui signifie appeler. Donc littéralement, le paraclète, c'est celui qui a été appelé à côté d'eux. Vous retrouvez d'ailleurs une partie de ce mot paraclète dans le mot église. L'ecclesia, vous avez à nouveau, klesia, c'est aussi celui qui a été appelé, n'est-ce pas ? Mais avec un autre préfixe qui sous-entend qu'il a été appelé non pas à côté d'eux, mais qu'il a été appelé hors d'eux, n'est-ce pas ? Voilà la distinction entre les deux termes. Et c'est un terme très riche. Celui qu'on peut appeler à l'aide à ses côtés. Si vous prenez d'ailleurs le dictionnaire Robert, vous verrez le paraclète. Il a même retenu notre ami Robert. Et Robert l'a rendu par cette locution qu'on appelle à son secours, ce qui est très juste. Je ne sais pas s'il y a parmi nous un médecin ce soir, ou une infirmière, ou des infirmiers. Eh bien, si vous aviez vécu dans le monde gréco-romain, à l'époque de Jésus-Christ, on vous aurait appelé de ce titre. Le médecin se rendant au chevet de son malade pour le réconforter, pour le soigner, pour lui faire la piqûre et tout le reste, n'est-ce pas ? C'était le paraclète, celui qu'on appelait au chevet du malade. Celui qui console, le consolateur, on l'a vu dans le texte, celui qui encourage, celui qui réconforte, celui qui stimule, qui soutient, qui plaide, l'avocat, qui exhorte, qui conseille. N'en jetez plus, la cour est pleine. Hein. Et c'est ça ce qui embarrasse d'une manière toute particulière les traducteurs de la Bible. C'est qu'ils sont parfois confrontés avec des termes grecs qui sont d'une telle richesse qu'on se gratte la tête pour savoir comment il est préférable de les rendre, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui a donné lieu à la transcription d'Alfred Kuhn, qui a voulu essayer de donner le maximum de sens possible dans la fidélité à l'original, pour nous montrer la richesse des Écritures. Alors, ce qui aide les traducteurs, c'est simplement la loi du contexte. Le terme paraclète est rendu par consolateur dans Jean 14 à 16, tout simplement parce que les disciples sont dans une situation difficile, ils sont angoissés, ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, ils ne comprennent pas très bien le langage de Jésus, cette question de son départ. Et Jésus répond à leurs besoins, en leur montrant que le ministère du Saint-Esprit est un ministère de consolation, et c'est ce qu'ils ont besoin. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et déjà à la fin du chapitre 1er, il est question du problème du péché dans nos vies, et qui sait si c'est un problème, et de nos diverses attitudes face au péché. La manière dont, avec les ficelles du métier de pêcheur, nous sommes capables, n'est-ce pas, de trouver toutes sortes de subterfuges pour refuser de reconnaître telle ou telle faute que nous avons commise. Et bien sûr, dans ce contexte de péché et de nécessité de pardon, le terme paraclète, attribué à la personne de Jésus-Christ cette fois-ci, a été rendu par le mot avocat. Nous avons un avocat dans notre cœur, lorsque nous péchons, qui plaide avec force, qui nous empêche de faire dodo, qui peut nous amener à nous retourner sur notre lit comme une crêpe sur la poêle pendant des jours et des jours, n'est-ce pas ? C'est le Saint-Esprit. Et puis nous avons un avocat dans le ciel de Dieu, n'est-ce pas, qui plaide avec son sang. Et puis, bien sûr, nous avons un procureur général qui plaide en faveur de la condamnation à mort. C'est l'ennemi de nos âmes. Vous voyez que quand nous péchons, c'est incroyable ce qui se passe dans le monde invisible et dans notre cœur, n'est-ce pas? Le terme parakletos se trouve 5 fois seulement dans le Nouveau Testament. Et il est toujours attribué à Jésus-Christ ou au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous dirons, en évoquant la personne de Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit, qu'il s'agit du paraclète avec un grand P. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. C'est important. Et c'est vrai que Jésus-Christ est un remarquable paraclète pour nous. Et que cela doit nous encourager. Un chrétien anonyme qui a été l'objet des soins du Sauveur dans l'adversité a écrit les paroles suivantes. « Suis-je blessé ? Il est le baume. Suis-je malade? Il est le remède. Suis-je pauvre? Il est la richesse. Suis-je affamé? Il est le pain. Suis-je assoiffé? Il est l'eau. Suis-je en dette? Il est ma caution. Suis-je dans les ténèbres? Il est mon soleil et mon bouclier. Dois-je affronter une tempête et de sombres nuages? Il est une encre sûre et solide. Suis-je accusé? Il plaide pour moi parce qu'il est mon avocat. Oui, dans tous mes besoins, Christ est mon tout. » Quel message, n'est-ce pas? Et j'ai sous les yeux ce témoignage d'un des pères de l'Église qui a vécu de 140 à 397 de notre ère et qui disait ceci. « En Jésus, j'ai trouvé un ami qui, lorsque je vivais loin de lui, s'est approché de moi, m'a parlé et a gagné mon cœur. En lui, j'ai trouvé un sauveur pour le temps et l'éternité. Après m'avoir montré mon cœur corrompu, il m'a révélé son grand amour à effacer mes péchés au prix de son sang précieux. » En Jésus, j'ai trouvé un guide fidèle qui, dans les moments de faiblesse, a empêché mon pied de glisser et m'a préservé des chutes. En Jésus, j'ai trouvé aussi un défenseur, car lorsque Satan m'a attaqué, il s'est toujours placé devant moi et a repoussé l'ennemi qui cherchait à me terrasser. Oui, en Jésus, j'ai tout trouvé. Ce que le monde n'a jamais pu me donner, et après quoi mon cœur a longtemps soupiré, je l'ai trouvé en lui. C'est pourquoi je suis pressé de dire à tous ceux qui soupirent après la paix, la joie et le repos, venez à Jésus. En lui sont cachés des trésors dont il fait part à tous ceux qui croient en lui et qui désirent le suivre et le servir. Il est encore le même aujourd'hui et offre librement la vie éternelle, la paix et le bonheur pour toujours. Quelle simple manière, mais si belle, de dire une vérité que nous savons intellectuellement, mais que nous avons tant de peine à réaliser dans le concret de notre vie. C'est une chose de dire que le Christ est le tout dans notre vie, c'est une autre chose de le réaliser au jour le jour, à chacune des heures de notre vie, de chaque jour. J'aimerais ici souligner que la même préposition, toujours dans notre petite leçon de grec, la même préposition et la même racine, sont très, très fréquentes dans le Nouveau Testament. Vous avez, par exemple, le verbe « parakaleo » qui est présent quelque 109 fois dans le Nouveau Testament. Vous avez également un substantif « paraklesis » qui est présent 29 fois dans le Nouveau Testament et vous avez même encore un composé qui est présent à lui tout seul une fois. Dans Romains 1, verset 12. Ce qui montre, n'est-ce pas, que s'il n'y a qu'un seul paraclète, avec un P majuscule, c'est-à-dire Dieu lui-même, nous avons notre rôle à jouer. Et j'aimerais l'exprimer comme ceci ce soir. Jésus a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Ils ont certainement eu du mal à comprendre au départ, les disciples. Et pourtant, le départ de Jésus était une nécessité. Parce qu'en quelque sorte, le Christ ne profitait qu'un minimum d'individus. Ceux qu'il rencontrait tout au long de son pèlerinage en terre d'Israël. Et il était avantageux qu'il parte de manière à ce qu'il puisse être dans le Saint-Esprit, présent sur la terre tout tout entière au même moment comme il est dans cet instant, quand nous pensons que le Christ est présent en cet instant, n'est-ce pas, sur la terre tout entière, agissant dans les vies par le Saint-Esprit, sous toutes les latitudes et longitudes, sous toutes les cultures, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous comprenons, nous. Et pourtant, est-ce que vous n'avez pas eu la même réaction que moi? Celle qui a consisté à certains moments de notre vie à dire ceci, mes seigneurs, si dans la situation que je connais en ce moment, si dans les difficultés que je traverse, tu étais là, présent à côté de moi en chair et en os. Ça ne vous est jamais arrivé. De dire, mais Seigneur, si seulement tu étais là, que je puisse, je dirais, m'asseoir sur tes genoux. Si je puisse m'asseoir à côté dans le fauteuil du salon, n'est-ce pas, à côté de toi, et que tu puisses passer physiquement ton bras autour de mon cou. Ça vous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé d'avoir ce sentiment. C'est vrai, Seigneur, que tu es présent dans ma vie par le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas m'empêcher par moments de vouloir plus que cela. Ce à quoi le Seigneur nous répond qu'il est présent. Qu'il est présent corporellement aussi. Et qu'il est dans la personne de nos frères. C'est ce que j'ai compris au travers de cette étude sur le Saint-Esprit en tant que paraclet. Christ n'est plus présent corporellement. Le Saint-Esprit, bien entendu, n'est pas présent corporellement, cela va de soi. Mais le Saint-Esprit est en nous pour exercer ce ministère d'amour, réuni dans tous ses termes, se tenir au chevet d'un malade, le consoler, encourager, réconforter, stimuler, soutenir, plaider, exhorter, conseiller, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est présent en nous, j'ai en moi, dans ma vie, ce soir, au moment où je vous parle, j'ai cet esprit-là. Si vous êtes en Christ, vous l'avez, il vous possède. Ce n'est pas vous qui le possédez. Mais c'est le paraclet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que s'il est en nous, c'est pour exercer ce ministère d'amour. C'est pour être paraclet, non seulement en nous, mais aussi par nous. Par nous. Et quand nous serions tentés de dire, mais si tu voulais être là en chair et en os, Seigneur, le Seigneur nous répond, eh bien, je suis en toi par le Saint-Esprit. Je suis dans la vie de tes frères et sœurs. En quelque sorte, mon amour est incarné et mon ministère de consolateur peut être exercé à cette condition, n'est-ce pas? Nous sommes appelés en quelque sorte à être l'amour de Dieu dans un corps. J'aimerais que vous reteniez de la part de Dieu cette manière de s'exprimer. Nous sommes appelés les uns et les autres à être l'amour de Dieu dans un corps. Nous ne pouvons pas être des paraclètes avec un grand P. Ça, c'est l'honneur de notre de Dieu. Mais nous sommes appelés les uns et les autres à être en quelque sorte des mini-paraclètes. N'est-ce pas? Parce que nous sommes habités par celui qui porte ce titre de paraclète. Je pense ici à l'histoire de ce petit enfant qui était effrayé dans le noir par le tonnerre et les éclairs et qui fait ce que nous avons sans doute tous fait dans notre enfance. Il appelle, pour lui c'était son papa, pour d'autres c'est la maman, à grands cris. Et papa, bien sûr, de se lever pour venir auprès du lit de son enfant. Et de dire, mais tu sais bien, chérie, que Dieu t'aime, il prend soin de toi, n'aie pas peur, calme-toi. Et le père de s'entendre dire par son enfant, oui, oui papa, mais en ce moment, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui a un corps. j'ai besoin de quelqu'un qui a un corps. Et il y a des moments dans l'église locale où nous aurions envie de dire cela à ceux qui nous entourent. Dans ma situation en ce moment, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui a un corps. De quelqu'un qui mette sa main sur mon épaule. Oh certes, avec toute la prudence nécessaire. On ne doit pas mettre dans l'église locale la main sur l'épaule de n'importe qui. Il faut avoir du bon sens. Mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je pense à cette autre histoire lue récemment. Cette petite fille de 4 ans qui demande à son papa de lui lire chaque soir son histoire préférée, Les Trois Petits Cochons. Alors le père en a marre et au bout d'un moment, il trouve une idée absolument géniale. Il enregistre l'histoire sur une cassette magnétique. Et papa va tout fier donner la cassette à la petite fille à qui il indique comment mettre le magnétophone en marche. Et le truc fonctionne pendant quelques soirs jusqu'au jour où il voit sa fille arriver avec les trois petits cochons sous le bras. Mais écoute ma chérie, maintenant tu es grande, tu sais bien comment on met l'appareil en marche. Oui papa, mais je ne peux pas m'asseoir sur ses genoux. C'est intéressant à d'autres titres, hein, cette petite histoire. Les cassettes ne remplacent jamais une réunion dans l'église locale. Faut-il le souligner au passage? Parce que précisément, ne croyez pas que dans une réunion, on puisse s'asseoir sur les genoux du prédicateur. C'est pas ça ce que j'ai voulu dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Qui est irremplaçable. C'est la communion fraternelle. Vous ne pouvez pas être en communion fraternelle avec votre magnétophone. Hein? Et Dieu a prévu cette invention absolument géniale que nous allons développer ce soir et demain, qui est la communion fraternelle. Et nous devons faire attention. Il est des moments où la cassette est un instrument légitime. Mais il arrive des moments, n'est-ce pas, où elle n'est plus légitime. Et où nous avons besoin des genoux de la communion de l'église locale. Je le dis au passage, je viens d'y penser juste à l'instant. Ce n'était pas prémédité. Nous sommes donc invités à édifier l'église de Jésus-Christ en secourant, en consolant, en réconfortant, en plaidant, en stimulant, en encourageant, en exhortant, en soutenant, voire en avertissant les uns et les autres. Je pense à ce mot « ami » dans une des langues indiennes d'Amérique. Oh, c'est très joli. « Celui qui porte mes chagrins sur ses épaules. »« Celui qui porte mes chagrins sur ses épaules. » Alors nous aurions pu passer une partie de notre soirée à évoquer un certain nombre de textes. Nous en lirons deux ou trois. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. « Au reste, frères, soyez dans la joie. » Perfectionnez-vous, consolez-vous, voilà notre paracaléo, il est là, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Colossiens chapitre 4, verset 8, Colossiens chapitre 4, verset 8, Colossiens 4, 8, j'envoie Tychique exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. C'est encore notre verbe paracaléo. Nous pouvons aller à la première aux Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. En réalité, là c'est encore paracaléo, il a été traduit ici par exhortez-vous. Tenant compte du contexte, mais en réalité ça change d'une version à l'autre parce que le contexte est beaucoup moins défini que dans d'autres textes, n'est-ce pas? Donc ici, exhortez-vous, consolez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres comme en réalité vous le faites. Si vous allez dans l'épître à Philémon, au verset 7, ce petit billet personnel, Philémon verset 7, J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation, n'est-ce pas, voilà le substantif, au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Si vous allez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 13, on peut commencer au verset 12, « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Alors là, la règle du contexte est dominante pour parakaléo, mais exhortez-vous, parakaléo ici, exhortez-vous, on aurait pu même traduire « avertissez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et dans le chapitre 10 et au verset 25, dans le cadre de la fidélité à l'église locale, l'importance de l'église locale, déjà au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et pour être au bénéfice de ce ministère de vigilance réciproque tellement important, alors faisons attention, n'abandonnons pas notre assemblée, parce que nous perdons le bénéfice de ce ministère de vigilance réciproque. Ceci, hélas, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, parakaléo encore, réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Puis nous arrivons à acte 4. Nous arrivons à acte 4 tout simplement parce que dans le verset 36, il est question de Joseph. Et Joseph est surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Nous retrouvons, une fois de plus, notre substantif, c'est intéressant, n'est-ce pas ? C'est le même. C'est le même. Il est question ici du mot « paraklesios », vous voyez qu'à l'oreille, ça sonne tout à fait de la famille. Oh, c'est intéressant ce texte. Voilà, dans l'église primitive, un homme, un lévite, et vous verrez que ce n'est pas sans importance, qui a été surnommé fils d'exhortation, fils d'encouragement, fils de consolation. Certainement avait-il un ministère de visite. Nous avons travaillé avec l'équipe de visite cet après-midi. Eh bien, voilà un homme qui certainement se serait senti très à l'aise dans l'équipe de visite de l'église de Longjumeau. Il est un exemple. Vous pourriez, pourquoi pas, donner à votre groupe ce surnom. C'est un beau surnom. Hein, le groupe des Barnabas. Peut-être que ça va se faire, parce que, vous allez voir, il va nous mettre l'eau à la bouche, notre ami. Il a donc été reconnu comme un authentique mini paraclète, avec un petit P toujours, parmi ses frères, dans l'église primitive. Très rapidement, nous sommes là dans les premiers balbutiements de l'église primitive à Jérusalem, et très rapidement, les apôtres, dans cette masse impressionnante de bébés qui étaient dans la maternité évangélique de Jérusalem, on a découvert quelqu'un qui avait une stature toute particulière. C'était un petit bébé qui se distinguait déjà des autres par un don tout à fait particulier. Il avait été doué dès le début, d'une manière toute particulière, par le Saint-Esprit, pour le bien de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il existe. Le Nouveau Testament nous le dit, un don de consolateur, un don d'exhortateur, un don d'avocat. Il est dit dans Romains 12 au verset 8 que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Et ceci s'inscrit dans le cadre de ces listes évoquant le service, le ministère, l'exercice des dons dans l'Église locale. Il y a donc dans l'Église de Jésus-Christ des hommes qui, d'une manière plus particulière, ont reçu de la part de Dieu ce don-là. Et il est évident que Barnabas a reçu ce don de la part de Dieu et qu'il a excellé dans la pratique de ce don au point d'être contagieux. Et c'est là, n'est-ce pas, le but, nous l'avons souligné cet après-midi, c'est là le but de l'exercice des dons. Quand on a reçu de la part de Dieu un don, eh bien, il faut être contagieux. C'est une bonne maladie qui doit se transmettre. Je dirais que l'on n'a même pas le droit d'être un porteur sain. On doit être un porteur bien malade de nos dons, de manière à ce que réellement les autres soient contaminés au contact de notre ministère. Et il en est ainsi de l'exercice de tous les dons dans l'église locale. Et Barnabas a eu ce site particulier, c'est qu'il a été communicateur. Il a été formateur, comme nous allons le voir. Et il a donné aux croyants de tous les temps qui se sont penchés sur sa vie l'envie de marcher sur ses traces. Il nous a dit, je le dis au passage, bien que nous allons étudier ce texte, sans doute demain matin, dans Hébreux 11, 24, que c'était un homme bon, plus qu'un homme de bien, un homme bon, rempli du Saint-Esprit. Un homme bon, rempli du Saint-Esprit. Mais nous y reviendrons. Soulignons au passage que dans le Nouveau Testament, nous faisons vraiment de l'étude biblique ce soir, mais nous allons déboucher sur le concret, le pratique. Dans le Nouveau Testament, nous avons plus d'une trentaine de mentions de Barnabas. 32 très exactement, dont 28 dans le seul livre des Actes. Vous comprenez qu'il soit occulté de cette manière, notre ami Barnabas ? Moi, j'ai le sentiment que s'il n'était pas dans la présence du Seigneur, dans la paix la plus totale actuellement, il serait frustré de voir qu'on s'est arrangé pour lui laisser si peu de place dans l'enseignement de l'Église de Jésus-Christ. Traitant de la question de Barnabas dans une église à Fort-de-France, en Martinique, il y a 2 ou 3 ans, le pasteur de cette église, au ministère depuis une quarantaine d'années, dans cette église de Fort-de-France, me disait à la fin de l'étude, « Vous savez, frère, jamais jusqu'à présent dans mon ministère, je n'avais entendu parler de Barnabas. » Alors c'était éloquent, n'est-ce pas? Et il n'a pas été le seul à me le faire savoir. J'aimerais ici, tout de suite, poser une première question. Parce que, manifestement, ce texte, d'acte 4, verset 36, pour ne parler que du verset 36, nous pose une question, nous interpelle. Quel est notre surnom dans l'église locale à laquelle nous appartenons ? Ah, vous allez me dire, mais je n'en ai pas. Alors, je précise, quel surnom porterions-nous si peut-être les autres osaient nous donner un surnom. Comment est-ce que nous sommes perçus dans la communauté locale à laquelle nous appartenons? Il me semble que c'est une question à laquelle il vaut la peine d'essayer de répondre dans le secret de nos cœurs. Après ce que nous avons partagé hier soir avec ceux et celles qui étaient là, nous pourrions en imaginer des surnoms. Hein? On pourrait se tourner un peu vers les nains de l'histoire de Blanche-Neige. Vous les connaissez, hein? Oh, Grinche, je viens d'en entendre un par là. Oui, Grincheux, oui, oui, il est en tête dans ma liste. Il y a aussi râleur. Rouspetteur, c'est une autre variante, n'est-ce pas, sur le même air. Nous avons évoqué Tatillon hier soir. Il y a aussi Boudeur, ou bouddhiste. Enfin, nous pouvons réfléchir, n'est-ce pas? Quel nom est-ce que, quel surnom est-ce que nous portons dans l'église locale? Dans le langage scout, quel totem? Je me souviens avoir lu un témoignage sur la croissance de l'Église en Angola, avant que ce pays ne se ferme à l'évangélisation missionnaire. C'était d'ailleurs en 1940. Et En 1940, un missionnaire visitait parfois le village d'un croyant qui s'appelait Papa Arnaldo. Et comme il avait un drôle de nom, pour simplifier, les gens du village lui avaient donné un surnom qui exprimait l'impression qu'il recevait de son message. Et c'était très beau, c'était celui qui nous console. Celui qui nous console. Et alors que je traitais de cette question en Côte d'Ivoire dans une conférence de serviteurs de Dieu, celle qui était à l'époque le secrétaire général de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, Lucie Schwarzenbach, qui est maintenant à la retraite en Suisse romande, est venue vers moi après la conférence pour me dire « Mais vous savez, Monsieur Decker, que j'ai été missionnaire en Angola avant de servir le Seigneur dans le cadre de la Ligue ici en Côte d'Ivoire. » Et effectivement, j'ai connu Papa Arnaldo. Et c'est exact. Il portait un surnom qui correspondait vraiment à l'impression que l'on recevait à son contact. Il était vraiment celui qui nous console. Et l'année dernière, au début de l'année, j'étais donc dans plusieurs pays d'Afrique et dans un pays d'Afrique, c'était au Bénin, une tribu, il y avait là plusieurs tribus présentes, plusieurs représentants de diverses tribus présentes pour une conférence, et une tribu avait aussi décidé de me donner un surnom. Et ce sont les missionnaires qui ensuite sont venus vers moi pour me donner le surnom. Je ne vous donnerai pas le surnom ce soir. Mais c'était très intéressant de voir tout ce que cela signifiait. Alors c'était une première question toute pratique. Quel surnom porterions-nous dans l'église locale? Maintenant, une deuxième remarque, elle est tirée du verset 37. Il nous est dit que notre ami Barnabas, on va l'appeler par son surnom, n'est-ce pas, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est curieux, mais je n'avais pas découvert ça du premier coup, en me penchant sur l'histoire de Barnabas. Tout simplement parce que quand on évoque ce ministère, exhorter, consoler, avertir, encourager, conseiller, à quoi ça fait penser ? Ça fait penser à un organe particulier de notre corps qui s'appelle la langue. C'est vrai. Immédiatement, nous pensons que l'organe par excellence pour exercer ce ministère, c'est notre langue. Et là, le Saint-Esprit de nous dire, et voulant en pleine figure, n'est-ce pas ? Pas du tout. Prenons exemple sur Barnabas. Et quelle est la première chose qui nous est dite de lui? Sinon que son ministère de mini-paraclète dans l'église se situait au niveau de son porte-monnaie. Au niveau de son porte-monnaie. La première chose que Barnabas fait, c'est d'apporter une aide financière pour soulager des frères en difficulté. Et je souligne ceci, et ce n'est pas sans importance, c'est que Lévitique 25, verset 34, signale que les champs qui étaient situés aux abords des villes occupées par les Lévites, ces champs étaient la propriété perpétuelle des Lévites. C'était des champs normalement qu'on ne vendait pas. Dans le judaïsme, propriété perpétuelle. Or, voilà un lévite. Et quand le souffle du Saint-Esprit passe, quand le Saint-Esprit régénère cet homme, eh bien cette loi judaïque tombe. Pour le coup, voilà un enfant de Dieu d'origine juive qui n'est pas judaïsant, qui n'est pas légaliste, n'est-ce pas ? Et qui ne va pas prétexter de loi de l'Ancien Testament concernant les possessions des Lévites pour dire « il n'est pas question que moi je fasse comme les autres et que j'aille toucher mon porte-monnaie. J'ai la loi de Dieu pour moi. » C'est quand même fantastique, n'est-ce pas ? Son soutien n'est pas simplement verbal, mais il est concret. C'est une plaidoirie vivante en acte. Et cela me fait penser, dans cette église en Scandinavie, de ces croyants en difficulté. Difficulté financière, étaient-ils au chômage ? Toujours est-il qu'ils avaient trouvé la liberté de partager leurs problèmes avec d'autres membres de l'Église, disant, vous savez, c'est difficile pour nous en ce moment. Et l'un des membres de l'Église, de se vouloir consolateur, et de dire, mais vous savez, c'est vrai, c'est difficile, et on comprend, on est avec vous, mais pensez au ciel, le Seigneur revient, bientôt nous serons là-haut, et là-haut, et des couronnes nous attendent dans le ciel. Et à ce moment-là, les amis en difficulté de poser la main sur l'épaule de ce consolateur et de lui dire, écoutez, oui, c'est bien, d'accord, nous le croyons. Nous croyons que des couronnes nous attendent dans le ciel. Mais en attendant, est-ce que vous n'auriez pas peut-être une demi-couronne à nous passer pendant que nous sommes sur la terre ? N'est-ce pas la monnaie du pays ? Et nous devons faire attention dans ce domaine. Parce que nous pouvons nous gargariser de mots et nous tromper nous-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est, jusqu'à un certain point, relativement facile d'aligner des mots d'encouragement face à la situation difficile des autres. Et vous savez qu'il est extrêmement facile de dire aux autres qu'ils doivent faire des actes de foi quand notre porte-monnaie est plein. Mais c'est vers la fin du mois, quand on devient un chevalier de la bourse plate, qu'on trouve que c'est curieusement même très difficile pour nous, n'est-ce pas ? Alors ce texte me plaît. Parce que notre ami Barnabas, c'est une plaidoirie vivante, en acte. C'est toute sa personne qui est engagée dans un ministère d'encouragement au sein de l'Église de Jérusalem. Et c'est ça ce qui a été reconnu d'une manière toute particulière par les apôtres. C'était pas du blablabla. Mais ça rejoignait la personne de Joseph dans son aspect le plus terre-à-terre, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que pour Barnabas, Dieu était le véritable possesseur, propriétaire, et de sa personne et de ses biens, n'est-ce pas ? Lui n'était que le gérant. Et il avait compris que le ministère d'encouragement auprès de ses frères et sœurs, passés par une aide concrète. Vous en voulez une autre preuve ? 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 4. Il s'agit de l'exemple remarquable des Macédoniens. Philippe, ville bien connu, vous pensez à Acte 16, au geôlier de Philippe, qui était le chef-lieu de cette contrée. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Vous savez qu'elles ont été d'un encouragement absolument extraordinaire pour le ministère de l'apôtre Paul. Ce sont pratiquement les seules églises qui ont persévéré dans leur soutien financier à l'endroit de l'apôtre Paul. 10 années après avoir commencé à le soutenir, l'apôtre Paul parlait encore de leur soutien généreux, 10 années après. Il y avait une constance dans la fidélité pratique qui était un encouragement fantastique pour l'apôtre Paul, il le dit notamment dans Philippiens au chapitre 4. Et au verset 2, il nous est dit qu'à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et bien sûr, le verset 5 est important, avant que je revienne au 4, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il est évident que la libéralité émane de la consécration personnelle. Il faut mettre les choses dans l'ordre. C'est dans la mesure où nous réalisons que Dieu a des droits d'auteur sur chacun d'entre nous à double titre. Vous savez ce que c'est que les droits d'auteur? On le sait notamment dans le domaine musical quand on organise un concert. Hein. Il y a des sangsues qui sont là pour veiller. Mais Dieu a des droits d'auteur sur nous. Et il a des droits d'auteur à double titre. Il a des droits d'auteur en tant que créateur de l'homme. Il est propriétaire de l'homme en tant que créateur, même si l'homme ne le reconnaît pas. Et à ce titre, il a des droits d'auteur en tant que créateur de l'homme. Et puis alors, il a des droits d'auteur en tant que recréateur de l'homme. En tant que celui qui le sauve, en tant que rédempteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons doublement être consacrés au Seigneur, parce qu'il nous a créés et parce qu'il nous a rachetés. Et que cela se traduit ensuite, n'est-ce pas, dans une saine et juste gestion des biens qui nous sont confiés pour un temps. Et là alors, les croyants de Macédoine excellaient, et le texte original est d'une richesse fantastique, ce verset 4 notamment, qui dit « Nous demandons avec de grandes instances ». Très intéressant ça. Il se trouve que le mot paraclète est dedans. « Nous demandons avec de grandes instances ». Je ne vais pas vous le dire en grec, ça ne vous intéresserait pas, mais vous avez le mot grec « paraclète » qui est là. C'est-à-dire qu'on devrait traduire littéralement « plaidant », n'est-ce pas, comme un avocat de la défense qui fait tout pour que son client ne soit pas guillotiné. Hein. Il plaide, il y met tout son être, tout son cœur. C'est ça ce qu'il dit là, n'est-ce pas? Ils y ont mis le paquet. Et ils ont plaidé comment, n'est-ce pas? Ils ont plaidé la grâce de prendre part, oh, c'est intéressant, le mot prendre part, c'est le mot qui en français a donné le mot communion. Oh, vous vous rendez compte ce que c'est que la communion? Vous connaissiez-vous la communion de cette manière? Ah, la communion, qu'est-ce que c'est pour nous? Bon, c'est le fait de partager la scène, dans un sens, c'est le fait d'être réunis ensemble, autour du même Seigneur, habités par le même esprit, de partager dans la prière, de partager la parole, de partager toutes les richesses que Dieu met à notre disposition. C'est ça pour nous la communion. Dans les Écritures, c'est tellement plus profond. Tellement plus profond, puisqu'ici, la communion, c'est quoi? Eh bien, finalement, la collecte du dimanche matin fait partie de la communion. Est-ce que vous avez réalisé cela? Que la collecte est un signe de communion. Au même titre que la scène et un signe par excellence de notre communion verticale et horizontale, n'est-ce pas? La collecte est un signe tangible de la réalité de notre communion. Parce que le terme communion pourrait être rendu par d'autres termes. Participation, association, contribution, partage. Communication, c'est mettre en commun, communiquer, n'est-ce pas? Dans la mesure où nous partageons nos biens les uns avec les autres, nous communions et nous communiquons vraiment. Ça, c'est une révolution. Le jour où Dieu a mis cela dans mon cœur, où Dieu m'a fait réaliser non seulement intellectuellement, mais au niveau du cœur, ce que c'était que la communion, ça a été une révolution dans ma vie. Parce que je n'avais jamais conçu la communion de cette manière. Moi, je voyais dans un sens une communion assez facile,
qui ne touche pas au concret. Parce que c'est relativement facile, s'asseoir sur les bancs de l'église, etc. Mais quand Dieu m'a dit, mais mon ami, la communion, c'est le partage, tu es en association. C'est-à-dire que tout ce qui est à toi n'est plus à toi. Tu le gères, mais tu le gères pour le Seigneur. Et tu es solidaire de tes frères et sœurs. Si vous voulez, la communion, pour donner une image, ce n'est pas ça. La communion, c'est ça. La communion, c'est une interpénétration de l'église locale. Et ça, c'est plus solide que ça. Nous avons une tendance à voir la communion comme ça, n'est-ce pas ? On est côte à côte. Là où Dieu voit la communion comme une étroite association qui est faite pour tenir dans l'adversité. Et c'est la raison pour laquelle nos églises sont si fragiles vient en particulier de ce que nous n'avons pas compris ce que c'est que la vraie communion. Nous n'avons pas compris la dimension d'engagement réciproque qu'implique une vraie communion. Alors quand on colle, simplement, il suffit de peu de choses pour qu'on s'écarte les uns des autres. Le texte continue, on va aller jusqu'au bout ce texte parce qu'il est d'une richesse, n'est-ce pas ? Nous demandons avec de grandes instances plaidant, n'est-ce pas ? La grâce. Le privilège, rendez compte, le privilège. C'est un texte révolutionnaire ça. La grâce de communier, de participer à l'assistance destinée aux saints. Et là, le terme assistance, c'est le terme service, diaconia. Le service, c'est un service. Nous servons les frères, les sœurs, les autres de cette manière. Quelle richesse simplement dans ces quelques mots. Et ce n'est pas le seul texte où la libéralité est vue sous cet angle-là. Nous pourrions prendre texte sur texte pour voir qu'il ne s'agit absolument pas d'une exception. Dans la majorité des textes, la libéralité est associée au mot communion de la manière la plus directe qui soit. Bien sûr, disons-le, la communion vue sous cet angle coûte. Elle signifie vraiment un don de soi. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Elle nécessite aussi de la sagesse, du discernement. Il s'agit de savoir aider de la bonne manière. On a peut-être parfois besoin de conseils. Mais méfions-nous dans notre Église de Jésus-Christ aujourd'hui, parce que nous sommes dans un pays où l'État fournit de multiples assistances. Méfions-nous du danger de nous désintéressé de l'encouragement concret en faisant reposer sur le dos de l'État ce que Dieu veut nous voir vivre, nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Je ne veux pas creuser de la question maintenant parce que cela prendrait trop de temps, mais je souligne la chose. Nous devons avoir le souci de ceux qui parmi nous vivent des temps difficiles. Et nous pouvons être vraiment source de riche encouragement pour le frère, pour la sœur, qui vivent peut-être une détresse très douloureuse. Le Seigneur pourrait avoir des choses à nous dire pour que nous manifestions de la bonne manière notre communion. C'est vrai, nous avons besoin de sagesse, mais faut-il encore avoir le désir de le faire ? Alors, j'ai sous les yeux cette illustration qui évoque le fait que donner coûte, c'est vrai, c'est l'histoire d'une poule et d'un cochon qui passent devant une église. Je suppose que ça se passait en Grande-Bretagne, vu le contexte. Ils s'arrêtent pour lire un grand panneau qui annonce un repas avec des œufs au jambon, dont le bénéfice serait envoyé à la mission. Alors, il y a la poule qui se met à caqueter, ça se comprend. Excellente idée, moi je vais y aller, je vais aller pondre mon œuf. Il y a le cochon qui se tourne vers la poule et qui lui dit, oui, C'est une décision bien facile pour toi. Toi, tu n'as qu'à donner une offrande, ton œuf. Moi, je dois faire un sacrifice pour donner mon jambon. J'allais dire, pardonnez-moi, hein, est-ce que nous sommes poules ou cochons ? Il y a des moments où ça vaut la peine d'être le second, n'est-ce pas ? C'est vrai que ça coûte. C'est John Wesley qui apprit un jour qu'un homme du nom de Tom était malade et pauvre. Et il lui écrit une lettre d'encouragement dans laquelle il disait en d'autres, « Cher Tom, je prie que Dieu te redonne bientôt la santé. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Psaume 37, verset 3. Et avec la lettre, Wesley glisse également un billet de 5 livres dans l'enveloppe, ce qui n'était pas une mince somme à cette époque. Et peu de temps après, il reçoit la réponse suivante de celui qui avait été béni par sa lettre et sa générosité. « Cher frère, j'ai souvent été frappé par la beauté du passage biblique que vous avez cité, mais je n'ai jamais vu un commentaire aussi utile que l'argent que vous y avez joint. » Maintenant, j'aimerais peut-être dans un autre sens ajouter quelque chose. Je me souviens d'une des tout premières fois où, dans mes fonctions au niveau de la FEF, j'ai reçu un chèque, non pas de l'église de Longjumeau, mais d'une autre communauté de France, et du trésorier de cette communauté. Et ce qui m'avait frappé négativement, tout en étant reconnaissant pour le chèque, c'est qu'il n'y avait pas un mot. Donc, de prendre ma plume, de la tremper dans l'encre de la courtoisie au maximum, mais pour répondre à ce trésorier que tout en étant très heureux de son chèque, je souhaitais que nous n'ayons pas ensemble des relations administratives. Et qu'un petit mot simplement, accompagnant un don, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'inverse de ce qui est ici, où le chèque accompagne le mot, l'inverse est aussi valable. Je crois que c'est très important dans les relations de l'Église de Jésus-Christ que nous ne devenions pas administratifs. Et je dirais jusqu'à un certain point, je vous le dis au passage, que tout en réalisant certes le côté très pratique des virements postaux permanents, j'en crains terriblement le caractère administratif. J'ai de chers amis qui soutiennent notre ministère, notre vie de famille depuis quelques années, qui à un moment donné nous ont écrit en disant « Nous aimerions procéder par virement postal permanent ». Bon, j'ai accepté, bien entendu, je n'ai pas à discuter quoi que ce soit, mais je l'ai regretté. Parce que notre type de relation a changé depuis. À l'époque, certes, il fallait écrire notre adresse sur une enveloppe, mettre un timbre, mais il y avait toujours un petit mot avec. Et le petit mot donnait une incommensurable valeur au chèque. Il multipliait la valeur par 10, par 100 peut-être. Pour nous, le mot avait autant d'importance que le chèque. Ce n'était pas une machine. C'était des hommes, c'était des femmes qui avaient un cœur. Et nous savions, en recevant, qu'il y avait toute une vie de prière derrière. Je ne veux pas dire qu'elle n'existe plus. Mais je veux dire qu'il manque le rappel. Quand, de mois en mois, on doit recommencer le même exercice, c'est aussi un exercice spirituel. C'est une sorte de rappel. Seigneur, il ne faut pas que j'oublie de prier pour cette personne. Merci, parce que si j'étais passé par le virement postal permanent, ben, je vois juste dans le décompte, puis ça s'arrête là. Et je suis si oublieux de nature. Vous voyez que finalement, être un encouragement pour les autres, ça passe par toutes sortes de petits détails très concrets, très pratiques, que la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en Europe occidentale, est en train de nous faire perdre. Et nous devons être extrêmement vigilants, de manière à ce que nous restions vraiment de mini paracléteuil, c'est-à-dire qu'il y ait toujours notre humanité qui transpire
derrière nos actes de communion et de solidarité à l'endroit des autres. N'est-ce pas ? Que notre compassion soit là, dans ce ministère de la libéralité. Je termine par cette petite histoire authentique. C'était un petit homme, paisible, un vendeur de fruits et de légumes, qui passait régulièrement devant la porte d'un croyant. Et un jour, ce vendeur, ambulant, laisse échapper un petit carnet de notes au moment où il est en train de servir ce client croyant. Et le croyant se baisse pour le ramasser pendant que l'autre farfouille pour lui donner le kilo de je ne sais pas quoi. Et au moment de le lui rendre, il est accroché au niveau du regard par les mots écrits sur la première page du carnet. Il était indiqué ceci simplement: pour son corps qui est l'Église. Alors il ose regarder d'un peu plus près, intrigué, et on lisait ensuite les remarques suivantes. Ces personnes étaient absentes de l'école du dimanche. N'oublie pas de leur rendre visite. Informe-toi du bébé malade. Laisse des fruits à la dame aveugle. Donne une parole d'encouragement au vieil homme infirme. Le possesseur de reprendre son bien, et remarquant que l'autre avait parcouru quelques pages, il explique, vous voyez, c'est le carnet dans lequel j'écris ce que je ne dois pas oublier. Et il montre alors du doigt la première page en disant, voilà pourquoi je fais cela. Pour son corps qui est l'Église, cela empêche mon âme de s'empoussiérer parce que j'encourage ses enfants. Et je sais que c'est lui que je sers. Dieu nous lance un défi ce soir. C'est à nous de discerner dans la présence de Dieu comment nous pouvons être mini paraclètes dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ, là où il nous a appelés. Nous en avons eu quelques exemples, mais nous avons vu en tout cas que la première manifestation dans la vie de Barnabas de ce qui nous semblerait être d'abord un ministère de la langue, en réalité se situe au niveau d'actes très concrets, passant par le porte-monnaie et par d'autres aides tout à fait pratiques. Le petit mot que l'on écrit, le coup de téléphone que l'on donne, conduit par le Seigneur juste au moment où il le faut. Je bénis Dieu pour le privilège des lettres que nous recevons parfois, notamment quand je suis loin. Ce qui fait le plus de bien à mon épouse, ce sont les lettres qu'elle reçoit ou les coups de téléphone quand je suis loin. D'amis qui lui disent, vous savez, on est avec vous tout spécialement en ce moment. Ça, je dirais que c'est pour nous une des beautés d'un ministère d'encouragement. Il y a de ces petits gestes qui font beaucoup plus que des grands discours.